travail au Kassai oriental. Je réfute totalement cette
histoire. Moi, c'est une de mon bâti au Kassanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, de maîtrise des dents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi. Le conseil d'administration de l'initiative pour la transparence des industries extractives ici en sigle a déclaré la RDC pays conforme en matière de transparence lors de sa réunion tenue mercredi 2 juillet à Mexico, au Mexique. Avec cette conformité, le pays échappe à la menace de radiation du processus ITIE qui pesait sur lui après sa suspension temporaire pour 12 mois en avril 2013. Nous en parlons donc avec vous, chers auditeurs, et aussi avec nos invités pour en fait faire des analyses sur cette thématique avec comme question principale comment capitaliser cette conformité. Rejoignez-nous à l'adresse pa@radiocapi.net et appelez-nous au 081-890-7315 pour votre intervention en direct. Notez que Piero et la Meji assurent la réalisation de ce programme. Il est assisté par Elvira Panzou Alengoy et à la mise en onde. Jirnou Gembo coordonne et présente cette émission sous la supervision de Nicole Ngaka. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, Jirnou Gembo.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi. Merci à vous tous qui avez déjà pris votre inscription pour participer à ces débats. Edi, vous êtes à Lubumbashi, Adrien à Kananga et merci également à tous les internautes qui nous ont envoyé leurs messages. Séverin Kichele dit ceci, toutes ces appréciations positives sur des entreprises de Congo, c'est bien, mais qui nous disent cette transparence porte sur quoi ou sur quelle matière. J'aimerais que cette transparence soit déterminée depuis le recrutement du personnel, la gestion des matériels et la gestion financière et que leur déclaration des impôts et taxes devant l'État soit honnête et rendu public. C'est ça la vraie transparence. Sinon, ça sera une appréciation fabriquée après une concertation. Tony Cantolé pense qu'il s'agit là d'une distraction totale. Soyons comme nous sommes au lieu de nous dire de blabla. Odax Rugedabaga Moulikouza, depuis Bikenge au Maniema, il dit capitaliser cette conformité demande toujours l'implication de ceux-là qui connaissent bien quelle était la cause de la suspension de l'ITIE et qui se retrouve personnellement, qui sera encore à son avantage. Voilà, Mandongo Grassi Ambandaka dit ceci, selon moi, il n'y a pas une transparence en RDC, même en ce qui concerne nos industries extractives. Peut-être que le conseil de l'administration de l'ITIE l'a déclaré en se basant sur des rapports théoriques que lui apporte la RDC, mais en réalité, il n'y a pas la transparence. Il faut aussi que le gouvernement s'engage à travailler avec la société civile, ce qui permettra à cette dernière de participer au suivi et à l'évaluation de tout. C'est la même, l'un des critères, en fait, c'est le seul critère de validation d'un pays à l'ITIE. Une fois encore, merci de votre fidélité. Edi, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, monsieur Gilles.
Comment faire pour capitaliser cette conformité?
Bon, pour capitaliser cette conformité, moi, je pense qu'il faut continuer avec la dynamique. Si vous remarquez bien, c'est après la rédaction du quatrième rapport que nous avons été déclarés pays conformes. Lors du deuxième rapport, vous allez remarquer que le deuxième rapport était amélioré par rapport au premier, le troisième amélioré par rapport au deuxième et le quatrième amélioré par rapport au troisième. Maintenant, on nous a demandé de publier un cinquième rapport avant le 31 décembre de cette année. Il faut continuer avec cette dynamique, c'est-à-dire améliorer, enrichir de plus en plus. Alors, moi, je considère cette atteinte du point de conformité non pas comme un aboutissement, mais plutôt comme une étape importante qu'il fallait atteindre. Maintenant, ici, je voudrais un peu dire à mes compatriotes congolais quels sont les avantages que nous tirons de cette d'être déclaré pays conforme. Par le fait d'être déclaré pays conforme, nous avons beaucoup de bénéfices. Premièrement, je vois que les autres vont commencer à nous regarder d'un autre regard. Il y aura un autre regard. Si avant, on nous prenait pour des gens moins sérieux, aujourd'hui, ils vont nous prendre un peu plus sérieux.
Il y aura un peu
sérieux.
De considération.
Deuxièmement, pardon?
Il y aura un peu plus de considération.
un peu plus de considération, merci, M. Gia. Deuxièmement, les investisseurs qui sont déjà dans notre pays vont un peu évoluer dans la quiétude, parce qu'avant, ils étaient pointés du doigt comme quoi ils étaient venus ici chez nous, profitant du désordre pour entretenir des relations incestueuses avec les autorités, c'est-à-dire piller le pays. Troisièmement, cela va persuader ceux-là qui doutaient encore, qui ne voulaient pas venir de peur d'être traités, d'avoir une mauvaise réputation, hein, d'être une entreprise évoluant dans un pays où il y a le désordre pour se faire de l'argent. Ceux-là qui étaient un peu réticents vont être persuadés à venir investir dans notre pays. Voilà un peu ce que je peux dire.
Merci beaucoup, Eddy. Mais est-ce que vous ne craignez pas, vous ne redoutez pas cette versatilité des relations disons, entre la RDC et l'IFIE? Aujourd'hui, on déclare qu'on a atteint la conformité et que demain, on revienne encore sur le bas de l'échelle. Donc, vous ne craignez pas, vous ne redoutez pas comme d'autres observateurs?
Bon, vous avez raison. Moi aussi, je redoute ça. Si aujourd'hui nous avons été déclarés pays conforme, cela ne veut pas dire que nous devons dormir sur nos lauriers. D'ailleurs, je vous informe que le cinquième rapport que nous devons rédiger cette année doit prendre en compte certaines réglementations que l'ITIE vient d'initier. Il faut par exemple publier aussi les contrats. Or, dans notre pays, c'est peut que beaucoup d'entreprises sont des entreprises enregistrées dans des pays un peu flous. Hein. Alors, je ne sais pas si le Congo va essayer de se conformer. Mais je veux que le gouvernement fasse un effort. Maintenant que nous sommes déclarés pays conformes, on le demeure. C'est ça le problème.
Voilà, donc si je comprends bien votre intervention, il faudrait que le gouvernement travaille sans état d'âme avec en fait les investisseurs qui ont choisi la RDC comme cadre pour leurs activités. Et aussi, par rapport aux avantages que vous avez énumérés, nous avons noté que cette atteinte de conformité pourrait inciter quand même les investisseurs à pouvoir venir travailler dans notre pays. Merci beaucoup, Eddy, d'avoir appelé de Lubumbashi. Adrien, vous êtes à Kananga. Bonjour.
Oui, cher, bonjour.
Vous avez la parole, Adrien.
Merci beaucoup pour la parole que vous m'accordez. D'entrée de jeu, hier, je trouve ça vraiment contradictoire et paradoxal même. Il n'y a pas longtemps, l'ITIE venait de suspendre la RDC en lui reprochant un nombre donc de choses bien déterminées. Et il n'y a pas aussi longtemps que le gouverneur du Katanga venait de monter au créneau vis-à-vis de certaines donc entreprises évoluant sur place. Et vraiment comme un cheveu dans la soupe, aujourd'hui, c'est l'ITIE qui revient pour aligner la RDC parmi les pays conformes. Bon, moi, je me dis, si c'est vrai qu'il y a eu des améliorations, bravo. Et en ce moment-là, je pourrais donner maintenant vraiment mon apport pour comment il faut donc aller de l'avant, mais si c'est par...
Oui, Maître Adrien, pour vous mettre un peu la puce à l'oreille, le conseil d'administration de l'initiative pour la transparence des industries extractives, ITIE, a déclaré la RDC pays conforme en matière de transparence lors de sa réunion tenue à mercredi. Donc, nous demeurons encore dans les domaines, dans le secteur de la transparence.
Tout à fait. La transparence, là, vous verrez encore donc m'enfoncer dans mes inquiétudes. La transparence, je ne sais pas qui l'a constaté. Hein, qui a constaté cette transparence-là à partir du moment où nous savons très bien que tout le monde est en train de crier, ce n'est pas à une partie de constater cela. Bon, je m'en vais très vite à donner vraiment mes pistes de solution. Donc, par rapport à cette déclaration encourageante de l'ICIE, moi, je pense, la première des choses pour maintenir ces caps, il faut créer une commission mixte. Parce que la commission mixte, elle va intégrer en son sein le gouvernement, la société civile, Il y a même les organisations spécialisées en cette matière, parce que lorsque l'option sera levée par toutes les parties faisant partie de cette commission mixte, je pense que là, il y aura vraiment un travail de fond qui sera apporté, qui sera abattu par toutes ces personnes-là, ce sera vraiment une très bonne chose. Deuxièmement, il faut une sensibilisation. Pourquoi la sensibilisation? Parce que lorsque je me réfère à la déclaration du gouverneur de Katanga, je me suis dit qu'il avait raison quelque part parce qu'il y avait certains partenaires qui ne comprenaient pas comment il faut travailler avec le gouvernement congolais, comment il faut aider, parce que lorsque vous ne coopérez pas avec le gouvernement, et tout retombe sur le gouvernement, c'est comme si le gouvernement était complice de cette mauvaise gestion de la non-transparence. Donc moi je pense qu'il faut vraiment la sensibilisation en ce qui concerne tout le monde. En ce qui concerne maintenant les investisseurs, moi je pense, en cette matière-là, je ne cesserai de le dire, il faut revoir la loi. Il faut revoir la loi parce que cette loi-là ne donne pas beaucoup de crédit aux investisseurs. Ce sont les investisseurs ne veulent pas vraiment se jeter à l'eau. Ils se disent que nous risquerons d'aller perdre tout notre investissement. C'est pour cela, lorsque la révision de cette loi-là, tout juriste sait et toi, je suis en train de parler parce que cette loi-là, elle est déplorée. Elle s'autorise donc l'une des parties au détriment des autres, comme tu disais, donc les autres
voilà,
ne se retrouvent pas. Et puis, c'est pour cela, moi je pense que lorsqu'on pourra réviser la loi ou bien les codes d'investissement, ce sera vraiment un très bon démarrage. Et ensuite, donc enfin, pour terminer, je pense que nous ne devons pas vraiment nous frotter les mains, nous devons donc cette appréciation doit être comme une interpellation pour la nation congolaise. Donc ça pourra vraiment nous donner beaucoup de matière à réflexion, parce que je vous ai dit mon inquiétude, si c'est vraiment une appréciation objective, tant mieux. Mais si c'est une appréciation subjective ou bien avec beaucoup de complaisance, là ce sera dangereux pour nous.
Merci beaucoup Adrien, vous avez proposé deux pistes de solution. C'est vrai qu'au début de votre intervention, vous avez quand même mentionné quelques contradictions dans cette appréciation. Néanmoins, vous demandez, pour capitaliser cette atteinte de conformité, de créer une commission mixte qui, en fait, regroupera le gouvernement, la société civile et aussi d'autres organisations spécialisées à la matière. Et deuxièmement, vous demandez à ce qu'on puisse revoir quand même les codes sur les investissements en RDC, et cela pourrait d'une manière ou d'une autre donner une valeur ajoutée à cette dynamique de pouvoir maintenir les caps. Merci beaucoup Maître Adrien. Néhémie, vous êtes à Matadi. Bonjour Néhémie.
Oui, bonjour aux journalistes et à tous les auditeurs de la radio Capi. Bon, ma préoccupation est celle-ci. Je crois bien que quand nous voyons qu'on a validé la transparence pour l'IPI au niveau de l'exil. Je crois qu'il y a une préoccupation qui nous sort du droit aux yeux directement. C'est par rapport aux réclamations de la société civile du Katanga. Je ne sais pas si ce qui est réclamé a été pris en compte ou a été une fois balayé. C'est par rapport à ce qui est réclamé Jean-Pierre Mousseba de la société civile, parce que quand nous intervenons comme ça à partir de Matadi, c'est parce que nous sommes aussi de la société civile. Nous voulons savoir ce qui s'est passé par rapport aux réclamations de ce que Jean-Pierre Moutoua parle au niveau du Katanga. Ça, c'est un. Donc, il y a un problème quand vous dites que même l'intervenant qui vient de passer, il parle d'associer, d'organiser, de groupes qui peuvent facilement faire en sorte qu'on puisse vraiment avoir, parce que quand on dit qu'on a validé la RDC pour la transparence en matière extractive, je dis, mais nous posons la question, est-ce qu'on a vraiment tenu compte de beaucoup de paramètres? Par exemple, il y a le temps que je vais vous donner aujourd'hui, il y a le forum qui vient de se dérouler à Goma, sur la jeunesse. quand le gars vient par exemple au Bas Congo pour avoir les avis des organisations de la société civile, vous savez qu'aujourd'hui la société civile est aussi divisée. Il y a ceux qui sont pour le gouvernement, qui sont dans la politique, qui sont aussi pour l'opposition, et là c'est ceux qui posent un problème. Et il y a aussi ceux qui sont écartés parce qu'ils n'ont pas de tendance. La politique ou quoi. Donc ça c'est une préoccupation majeure. Je crois que bien que la RDC doit être validée par rapport à la transparence des matières extractives, mais je crois qu'il y a encore un travail à faire au niveau de la base pour que quand prochainement il y aura encore des avis pareils à émettre, qu'on ne devrait pas voir réellement qui milite pour le bien-être de la population, de la société civile, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas. Il n'y a pas vraiment de clarté dans tout ce qui se passe dans notre pays. Parce que moi, si je me souviens bien, de fait que parler Jean-Pierre Moussé dans la société civile du Katanga, là, on ne parlait pas à comprendre que directement comme ça, par rapport à sa déclaration, on va dire non, la RDC a été validée et c'est ce qui nous étonne le plus. Mais je crois que ce n'est pas mal si aujourd'hui notre pays a été accepté, que ça fait la fierté de notre pays pour que nous cherchions à améliorer.
Voilà. Alors,
de la participation. Oui, alors.
Oui, Némi, et clairement vos apaisements, parce que vous avez cité le nom de Jean-Pierre Moutéba, d'ailleurs c'est lui, c'est de lui qu'il s'agit, hein, comme notre invité aujourd'hui. Il pourrait quand même apporter quelques éclairages là-dessus. Alors, nous vous demandons de rester en ligne. Nous allons juste accueillir aussi notre invité rapidement, comme ça il pourrait. Rapidement aussi à vos préoccupations. Monsieur Jean-Pierre Moutéba, vous êtes avec nous en ligne, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Voilà, vous venez de suivre Némi. Quelle est votre réaction par rapport à son intervention?
Bon, ce que je pourrais dire, c'est que nos inquiétudes par rapport à la mise en œuvre de l'initiative pour la transparence n'ont pas été rencontrées. Malgré qu'on a validé le pays, et nous pensons que la validation n'est que sur le plan de la forme, mais sur le plan du fond, la RDC est un pays que je dirais le plus opaque du monde.
Voilà, parce que vous avez parlé de
notre capacité que nous avons élargie à d'autres entreprises au Katanga a démontré que pratiquement toutes les entreprises du Katanga, ou du moins toutes les entreprises étrangères installées chez nous, n'ont pas de pièces comptables sur place, ont des pièces comptables dans leur pays d'origine. Je parle bien de toutes les entreprises, ce qui signifie qu'en fait, en matière de transparence, qui malheureusement est l'un des indicateurs, ces entreprises ne peuvent pas être déclarées transparentes. Et donc le pays, si elle a été validée, c'est juste pour la forme. Sur le fond, il y a encore beaucoup de choses à faire.
Parce qu'on y est,
ce qui reste à faire est énorme, malheureusement.
Oui, alors Jean-Pierre, qu'est-ce qui reste concrètement à faire? Parce qu'on y est, on a quand même pu atteindre cette conformité. Que doit-on faire pour qu'on arrive effectivement à capitaliser cela dans les perspectives à venir?
Ce qui reste à faire, je dirais qu'est énorme, mais je peux ici identifier quelques actions prioritaires au niveau du pays. Mmh. La première chose, c'est de pouvoir maintenant que toutes les entreprises minières ramènent leurs pièces comptables au pays, c'est-à-dire au siège d'exploitation de ces entreprises. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, nous devrions auditer ces entreprises-là afin que nous puissions nous conformer aux normes internationales en matière d'audit. C'est-à-dire en ayant des pièces comptables.
Oui, mais qui est habilité à auditer ces entreprises-là?
Bon, d'habitude, l'État, dans un pays organisé, a des institutions en son sein, des organes qui ont les mandats de contrôler, c'est-à-dire d'auditer l'investissement, d'auditer les opérations d'une entreprise. Donc l'État doit s'organiser au niveau de ces organes-là pour qu'ils soient maintenant capables de pouvoir auditer de manière rationnelle, mais aussi radicale, les différentes entreprises qui exploitent dans notre pays en général, mais aussi dans la province du Katanga en particulier, parce que, comme vous le savez, nous avons produit 980 000 tonnes l'année dernière, et l'année prochaine, on évalue la production à 1 500 000 tonnes. Malheureusement, vous constatez que les recettes ne suivent pas. C'est parce que malheureusement, il n'y a pas de transparence dans les paiements, dans l'investissement, dans l'amortissement et dans toutes les opérations que les entreprises minières opèrent Ici, je cite particulièrement le secteur minier. Mais si je prends aussi le secteur pétrolier, parce que j'ai entendu notre ami du Bas-Congo, depuis 1969, que les entreprises pétrolières du Bas-Congo exploitent le pétrole, vous le savez, c'est 26 000 tonnes, plutôt 26 000 barils, depuis 1969 jusqu'à ces jours. Donc nous allons faire 50 ans en produisant 26 000 tonnes. Donc nous avons énormément de problèmes au niveau de l'exploitation, de la production, des paiements, que nous, aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes le premier pays au pacte, c'est pas nous qui le disons. C'est plutôt des experts internationaux. Il y a donc énormément de choses à faire pour que nous puissions arriver nous-mêmes en interne à nous considérer comme étant un pays transparent.
Oui,
pour le moment, nous le sommes malheureusement
pas. Oui, Jean-Pierre, on sait que cette opacité dont vous parlez, c'est beaucoup plus visible que dans les secteurs miniers. Et d'ailleurs, c'est ce secteur-là qui a été d'ailleurs pointé du doigt dans l'appréciation de l'étier. Alors, aujourd'hui, pourquoi seulement ce secteur qui est mis en première ligne?
Bon, je dirais que le secteur minier est opaque, ça c'est évident, mais aussi le secteur pétrolier, je viens de dire qu'il fait 26 000 barils depuis 50 ans, c'est quand même incroyable, alors que nous avons le même bassin que l'Angola, que les autres pays du golfe de Guinée, mais nous produisons 26 000 barils pendant 50 ans. Je crois que c'est des questions qu'il faut se poser à ce niveau. C'est pas seulement le secteur minier, malheureusement, c'est aussi le secteur pétrolier. Donc les deux secteurs clés posent aujourd'hui des problèmes énormes en ce qui concerne la transparence dans les opérations des entreprises. C'est ceci que nous disons. Nous sommes encore extrêmement opaque. Je crois que le rapport qui est sorti l'année dernière du panel Afrique a démontré, a même dit, je crois, c'est leur phrase, que le pays RDC, c'est le pays le plus opaque au monde. Donc nous ne devons pas nous satisfaire de cette validation des formes. Nous devons aller dans le fond pour que nous puissions cerner les opérations extractives, mettre des limites à leurs activités, essayer de contrôler, mettre des indicateurs internes qui puissent permettre à ce que le secteur soit réellement, c'est peut-être pas pour la communauté internationale que nous faisons la mise en œuvre des litiers, c'est plutôt pour nous, pour la RDC. Si le chef de l'État dit que dans le secteur extractif, il y a la corruption, il y a la fraude, il y a l'évasion fiscale, c'est l'année dernière ici à Lubumbashi, un an après, nous devons nous évaluer. Est-ce que nous sommes aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il n'y a plus la fraude, qu'il n'y a plus l'évasion fiscale et que nous sommes transparents? Je crois que non. Donc, c'est des choses pour lesquelles nous ne devons pas nous satisfaire, comme la communauté internationale qui nous dicte avec cette validation des formes. Nous devons dire qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et nous devons ici prendre des mesures draconiennes pour que et les organes de l'État et les entreprises ensemble puissent travailler pour améliorer la transparence et la vraie transparence.
Ben alors, tout de même, il faut reconnaître que nous venons de très loin après 4 rapports que nous venons d'être validés. C'est pas une mince affaire.
D'accord. J'ai dit, c'est vrai que nous avons fait 4 rapports. La Zambie n'a fait qu'un seul rapport, elle a été validée. La Tanzanie a fait un rapport, elle a été validée. C'est-à-dire que le pays en interne a déjà des organes qui sont suffisamment transparents pour que, après un seul rapport, qu'il soit validé. Ça signifie que la RDC était tellement opaque qu'on a fait des efforts qui sont évidents, mais lesquels efforts jusqu'aujourd'hui par rapport à la population ne permettent pas aujourd'hui de nous dire nous sommes transparents. Nous avons fourni d'énormes efforts, ça tout le monde en convient. Mais ces efforts-là n'ont pas permis au pays aujourd'hui de faire des recettes dans les secteurs extractifs, donc de parvenir à la transparence. Donc l'opacité règne à mettre dans ces secteurs-là et nous devons encore nous dire aujourd'hui que si le verre pour le gouvernement, il est à moitié plein. Pour la société civile, une fois encore, le verre est pratiquement vide parce qu'il n'y a rien et parce que les recettes ne suivent pas. Donc, il y a un problème. Et d'ailleurs, ici, je crois que l'ami a dit Jean-Pierre Moutéba. Ce n'est pas Jean-Pierre Moutéba. Il y a 3 semaines, nous avons sorti un rapport avec plusieurs ONG de Kinshasa, Azado, Senadep, Sarwa et autres, qui nous ont rejoints pour dire effectivement qu'il y a des problèmes. Quand bien même eux, ils disent qu'il y a transparence, mais il y a mauvaise gouvernance, nous disons qu'il y a plutôt opacité. Parce que transparence et gouvernance, je ne sais pas si les deux mots sont différents, mais pour nous, il y a opacité et toutes les autres ONG aujourd'hui nous ont rejoints pour nous soutenir ou nous appuyer dans cette perception. Il y a opacité. Le rapport que nous avons publié avec ces ONG le prouve à suffisance. Donc, je crois qu'il n'y a pas ici matière à débat. Nous tous Congolais, le chef de l'État le premier, nous convenons que le secteur est opaque. les recettes ne suivent pas. Donc, il y a énormément de problèmes qu'il faut encore régler.
Voilà, nous avons Némi Kiamatadi qui avait posé d'ailleurs cette préoccupation, Jean-Pierre Mouteba, parce que nous avons, en tout cas, vous êtes tombé comme un chéri dans la soupe là, juste en plein milieu, les auditeurs intervenaient déjà, et nous profitons d'ailleurs pour vous présenter aux auditeurs qui nous suivent en ce moment. Jean-Pierre Mouteba, vous êtes expert en questions de gouvernance et transparence dans le secteur minier. Vous êtes notre invité, nous vous gardons encore en ligne, il est temps de revenir à Némi qui, en fait, posait des préoccupations tout à l'heure. Némi, vous êtes avec nous, hein?
Oui, oui, je suis ravi d'avoir aussi en direct Jean-Pierre Moulin son intervention, parce que notre inquiétude, en tant que secteur de la société civile, était réellement cette réclamation qui était prise en compte pour que ce, nous soyons validés. Je crois qu'il a bien dit que cette validation au niveau de la forme, ce qui reste à faire, c'est le fond, là où se pose le grand problème. Aujourd'hui, nous sommes au banc, tout ce qui vient de soulever là pour
le pétrole
qui se trouve, le pétrole qui est exploité à Moanda, ainsi de suite. Je crois qu'au niveau de la province du Bas, nous avons aussi de sérieux problèmes. Et je crois que ce qui est plus important à savoir est que, si réellement, ce que la société civile du Katanga a réclamé a été prise en compte pour qu'on valide notre, qu'on puisse valider la RDC, c'est bien, c'est une fierté pour nous, mais nous voulons à ce que cet exercice-là, et s'il y aura encore un rapport à faire, que ce rapport-là tient compte des réalités, par exemple pour les réalités la fuite de taxes, ainsi de suite, par rapport à ce que vient de dire notre frère du Katanga de la société civile. Ce qui est plus important pour nous est que lui a intervenu et cela nous soulage un peu. Je crois qu'à ce niveau-là, je suis un peu satisfait. Mais ce que je demanderais en plus de ce qu'il vient de dire, qu'on puisse considérer, quand il y a par exemple des histoires qui concernent l'intérêt de la population, que la société civile soit vraiment, vraiment.
Vous l'avez reconnu vous-même, Némi, que cette société civile est inféodée. Il y a une partie est pro-opposition, une autre pro-pouvoir, ce qui fait que c'est difficile hein, de recourir à cette société civile et même à cette société civile non alignée, comme le dirait les communs des mortels, qui n'a pas de position. Bon, voilà, donc c'est difficile d'impliquer toutes ces personnes. Némi, merci d'avoir appelé par rapport à cette thématique et d'avoir appelé les Matadi. Merci beaucoup. Paul, vous êtes à Kinshasa. Bonjour, Paul.
Bonjour.
Paul, vous avez la parole. Paul, vous êtes avec nous? Voilà, dommage, nous avons des petits soucis avec Paul. Nous revenons à vous, Jean-Pierre Mouteba, et nous lisons tout à l'heure les messages qui nous ont été envoyés par les internautes. Il y a Séverin Kichele qui disait « Toutes ces appréciations positives sur les entreprises au Congo, c'est bien, mais qui nous dit cette transparence porte sur quoi ou sur quelle matière ?» Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus, Jean-Pierre Mouteba? Monsieur Jean-Pierre, vous êtes avec nous? Voilà, on a également des petits soucis avec la ligne de Jean-Pierre. Nous vous rappelons, chers auditeurs, que vous pouvez nous contacter donc au 081-890-6315 pour votre participation en direct. Voilà, nous avons des petits soucis avec nos lignes. Et je crois que Jean-Pierre Mouteba est à nouveau en ligne, mais on va d'abord prendre un autre auditeur qui est également en ligne, mais le temps de découvrir aussi le message de Manzongo, qui dit, selon moi, il n'y a pas une transparence en RDC, même en ce qui concerne nos industries extractives, peut-être que le conseil de l'administration des litiers l'a déclaré en se basant sur des rapports théoriques que lui apporte la RDC, mais en réalité, il n'y a pas la transparence. Il faut aussi que le gouvernement s'engage à travailler avec la société civile, ce qui permettra à cette dernière de participer au suivi et à l'évaluation de tout. Georges, vous êtes au Maniema. Bonjour, Georges.
Bonjour, JR.
Vous avez la parole.
Ok, merci, JR. Pour apprendre également à remercier certaines réalisations de nos autorités, on ne doit pas toujours rejeter ou bien balayer d'un revers de la main ce que font les autorités. Mais la cotation des litier. Moi, je crois que c'est une façon, comme qui dirait, un carton pédagogique qui peut administrer un arbitre. Donc, on a voulu encourager nos autorités à faire toujours beaucoup mieux. Mais ce n'est pas à dire que nous avions atteint le niveau souhaitable de la transparence dans le secteur minier. Imaginez, ici chez moi, au Maniema, nous avons la société Namoya Mining, mais également des prospections qui avancent au niveau des Mirundu, nous disons à Kabuchomi, plus précisément. Bon,
ce qui se passe là-bas, c'est quoi? Même le chef des divisions minières, même l'exécutif, tout le monde, personne n'a accès ni à l'information et encore moins, même au vide des installations. Imaginez-vous, la dernière fois que le président de la société civile est allé arbitrer un litige entre les personnels, et normalement, ça concerne la redevance, je ne sais pas les termes m'échappent, mais justement la redevance envers la population autochtone.
Mmh.
Ils sont allés là, on n'a pas voulu qu'ils puissent voir des visuels. Qu'est-ce qui se passe? On n'a pas l'idée sur les montants, le véhicule de cette société ne paye pas l'impôt, tout reste flou, alors on ne comprend même pas ce qui se passe. Au niveau de Mirundu, par exemple à Kabutomi, là, qu'est-ce qui se passe? Des hélicoptères qui viennent de nulle part, on ne sait pas, mais ce que je sais, que ce n'est pas au Maniema, ça vient de quelque part. À 6h du matin, un agriculteur, c'est un hélicoptère qui atterrit, et après tout ce qui se passe, c'est flou. La société civile, tout comme les notables locaux, ont tenté de le dire, on leur dit, messieurs, stoppez, nous, on ne dépend pas de votre province, et encore moins de vous, la population, nous dépendons de quelque part. Bon, j'étais le terme, ou bien les mots, je vais le dire, mais au moins j'étais. Vous voyez, dans cet état des choses, ça prouve à suffisance que l'opacité est à son plus haut niveau dans les secteurs miniers. Nous croyons que PTA a voulu tout simplement encourager et puis donner une chance à notre État, notre République, de se rattraper dans ce secteur, au moins pour rendre sa gestion plus ou moins orthodoxe dans le secteur minier. Même si je veux dire que nous avions atteint les standards, nous sommes très, très, très loin. C'est l'opacité. Je ne parle pas du Katanga, mais encore moins de partout ça et là. Non.
Oui, c'est juste un cas isolé.
Ce sont des choses que je vis, que je sais, que j'ai vécu même moi-même, j'étais là et j'ai touché même.
Alors, Georges,
ça ne va pas.
Oui, parce que vous êtes là dans le Congo profond, vous vivez au quotidien avec toute cette situation. C'est vrai que vous l'avez reconnu, l'appréciation de l'ITIE est à mettre dans les comptes de l'encouragement de notre gouvernement à pouvoir mieux faire, de s'engager totalement dans cette dynamique, de vouloir vraiment rester dans la transparence et éviter l'opacité. Alors, vous, personnellement, en tant qu'observateur aussi, qu'est-ce que vous proposez pour que nous puissions capitaliser aujourd'hui cette attente de conformité?
Ok, ça c'est la bonne question. Tout ce qui doit être fait, pas nous, ce sont les autorités qui sont aux manettes. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ce qu'ils doivent faire, c'est de rendre clair, orthodoxe, respecter la loi minière à la matière. Vous savez, il y a des accords qui se concluent entre les autorités et les entreprises sans que la population soit au courant. D'ailleurs, comment ça marche? Même pas droit à l'information, la population n'en a pas. Vous voyez, donc c'est au moins se dépasser, dire que non, ce que nous gagnons, nous en avons déjà gagné, nous avons les droits de chancellerie et autres, mais au moins mettons ceci au clair, informons les représentants du peuple qui sont les députés. Même eux n'entendent pas, ce sont des accords qui se concluent au plus haut niveau, ils sont là, ils n'ont qu'à les yeux pour constater, et comme ils sont toujours là, comme tu dirais, avec un mandat impératif, ils ont beaucoup plus de comptes à rendre à la hiérarchie qu'à la population. Et les élus se taisent comme ça, ils ne disent rien. Nous les avons contactés à maintes fois, mais je vous dis que c'est le regret parmi la population.
Merci beaucoup, Georges, d'avoir appelé le Maniema. Nous prenons Pichu qui est à Kisangani dans la province orientale. Pichu, bonjour.
Voilà, téléphone.
Pichu, vous êtes avec nous? Vous êtes déjà en direct, Pichu?
Oui, je suis en ligne.
Votre point de vue?
Et moi, je pense que pour arriver à capitaliser, ou soit à répondre aux normes de l'ITIE, les autorités congolaises doivent être sérieuses et respecter les principes liés au fonctionnement de l'ITIE. Si aujourd'hui on allait être supprimé dans ce système, c'est suite au manque de sérieux qui est dit au comportement, soit dans les chefs de nos autorités. Et rien que pour arriver à justifier les dépenses, et nos autorités ne voulaient pas les faire. Or, normalement, nous savons bien qu'à chaque fois, quand il y a quand même des contrats, des principes, nous devons nous mettre ensemble. Parce que nous ignorons que l'ITIE exige la transparence. Et la RDC allait être juste exclue dans ce système parce qu'il ne voulait pas maintenir les vraies exigences de l'ITIE. C'est pourquoi je souhaiterais ce que nous devons mettre, nous puissions mettre du sérieux dans nos engagements et éviter l'impunité. Parce qu'aujourd'hui, si aujourd'hui nos autorités remettent en cause des fois le système politique de la RDC, c'est suite à l'impunité. Parce qu'il y a des faits qui sont punis et ceux qui sont au-dessus de la loi. Nous devons éviter cela. La loi est dure, mais le reste est la loi. C'est mieux de nous conformer aux principes juridiques. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Pichou, d'avoir appelé de Kisangani. On va prendre Joseph qui est à Lubumbashi. Joseph, bonjour.
Bonjour, Jure. Bonjour à la radio Okapi et à ses éditeurs.
Alors, vous avez suivi vos prédécesseurs, Joseph. Quel est votre point de vue par rapport à cette thématique?
En fait, on a suivi ici Jean-Pierre Moutéba. Et quand vous prenez la thématique, l'ITIE se base surtout sur la transparence au niveau des entreprises minières. Il n'y a pas une année, en fait, nous suivons les informations comme tout le monde, il n'y a pas une année, il y a eu une grande conférence ici qui réunissait les entreprises minières et les autorités de la place. Et de ces mêmes autorités, il n'y avait pas de la transparence entre ces entreprises minières qui opèrent spécialement ici au Katanga. Quelques jours après, pas même une année, le pays est certifié parmi les pays où il y a ça nous inquiète. Ça nous inquiète tout simplement parce que quand vous prenez par exemple des secteurs miniers au Katanga, nous n'allons pas citer les noms des gens qui sont dans ce secteur. Et moi, je vois l'ITIE mal parti et transparence, si vraiment elle est là, les entreprises payent les impôts, cela doit se voir dans le vécu du peuple, comme l'ont dit nos prédécesseurs. Mais quand vous allez ici, sur la route, par exemple, du Kassi, vous avez des autochtones dont, quand ils se plaignent, par exemple, de la pollution, il y a toutes des rivières qui se sèchent comme ça parce que les entreprises ont pollué l'endroit, et quand ces autochtones hausse leur voix, on leur dit attention, il n'y a rien qui s'ensuit. Alors cette transparence là-bas, merci, comme Jean-Pierre l'a dit, c'est au niveau de forme. Et en tout cas, nous, on n'est pas d'accord avec cette certification là-bas. C'est pas mon point de vue.
Merci beaucoup, Joseph, d'avoir appelé de Lubumbashi, 081 890 6315 pour votre intervention en direct.
Radio Okapi encourage les jeunes talents congolais. Auteurs, compositeurs, interprètes, une adresse mail est à votre disposition. musique@radiookapi.net. Envoyez vos chansons. Après sélection, elles feront peut-être partie de la playlist ou d'une émission de Radio Okapi. Faites-vous connaître, des millions d'auditeurs vont écouter votre musique. musique@radiookapi.net. Allez-y, on vous attend.
Voilà, merci de votre fidélité à Radio Okapi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans cette émission. Monsieur Jean-Pierre Moutéba, vous êtes notre invité. Vous avez suivi cette deuxième série des auditeurs. Comment vous réagissez?
Non, ce que je peux dire déjà, c'est que le Congo profond, c'est-à-dire dans toutes les villes, dans toutes les provinces, les gens ont cette conviction qu'il n'y a pas de transparence dans la gestion des ressources naturelles de notre pays. Là, je crois que ce qui ressort de toutes les interventions, et même la société civile, j'entends dans toutes les provinces, c'est de cet avis que nous défendons, qu'il n'y a pas de transparence. Malheureusement, il y a quelques-uns des membres de certaines organisations qui sont inféodés au gouvernement, vous l'avez dit, et qui soutiennent Mordicus, qui associe pour des petits avantages passagers, alors que le pays est en train d'être pillé systématiquement par les entreprises extractives. Et comme je l'ai dit, la validation n'est qu'une validation d'efforts. Mais dans le fond, les efforts pour pouvoir améliorer de manière notable ne sont pas perpétuels du côté du gouvernement. Et donc, c'est cela que nous pensons qu'il faut vraiment que nous puissions, en ce qui nous concerne, mobiliser la population de Colombie, de Likati, de Cambor, de Kakanda, pour demander beaucoup plus de transparence. Que ces entreprises-là, au lieu de payer la redevance minière dans ce qu'ils appellent le trésor public dont le fonds est cloué, que les 15%, les 25% soient versés directement dans des entités décentralisées où ces entreprises produisent, de manière à ce que cet argent serve à lutter contre la corruption dans ces milieux-là. Parce qu'en fait, quand l'argent va à Kine, même le peu qui va à Kinshasa ne rentre pas dans les provinces ou dans les entités où on a produit. Si bien que nous gérons tous les jours les conflits entre les créateurs artisanaux qui entrent fréquemment dans les sites des entreprises minières, nous gérons les conflits avec les entreprises qui délocalisent les populations à longueur de journée sans indemnisation. Et toutes ces questions, ce sont des questions générales que nous connaissons dans les secteurs, doivent être prises en compte, mais ne sont pas prises en compte malheureusement. Et alors nous devons les gérer au quotidien avec la population. C'est donc toutes ces questions qui nous préoccupent, qui doivent préoccuper aussi l'ensemble des opérateurs ou des acteurs dans notre pays.
Alors, d'aucuns se posent la question, à savoir, les deux conférences économiques organisées, donc celle du Katanga et la seconde qui a été organisée à Goma, selon vous, vous pensez quand même que ces deux conférences n'ont pas abouti, n'ont pas donné des résultats escomptés?
Bon, après la deuxième conférence de Goma, nous y avons participé. Nous avons fait une déclaration comme quoi la RDC devrait cesser d'être un pays mafieux. Un pays mafieux dans ce sens que la RDC s'organise pour vendre soit les gisements, soit les parts sociales dans les îles Vierges, dans les îles Britanniques, dans les paradis fiscaux. Et la RDC est en train de brader ses richesses minières, ses richesses forestières, et bientôt, on a parlé même des sols arables à vil prix. Et toutes ces questions-là, c'est des questions importantes. Nous pensons que nous devons nous mobiliser tous, mobiliser la population pour que ceux qui gèrent le pays soient le plus redevables possible. Parce qu'aujourd'hui, on nous valide aujourd'hui, demain, ils vont vendre les 20% des actions dans KCC à vil prix, après-demain, ils vont vendre les terres arables à vil prix. Demain et le surlendemain, ils vont vendre les gisements pétroliers, soit du risque, soit de la côte à vil prix. Donc c'est toutes ces questions-là qui nous préoccupent, parce qu'il ne faut pas que les gens consomment cette validation des formes. C'est une validation trompe-l'œil. C'est une validation que la communauté internationale a donnée, comme les gens ont dit, pour encourager le pays. Mais en réalité, le pays ici devrait faire un arrêt pour dire l'exploitation des ressources naturelles n'apporte rien dans cette opacité-ci. On doit arrêter. Et les deux conférences de Lubumbashi et de Goma ont fait plutôt le constat. Et le constat, c'est l'opacité. Et cette opacité doit cesser. Donc, c'est ça. Quand vous relisez les recommandations qui ont été faites, les recommandations débouchent sur l'opacité, aussi bien dans les ressources minières, forestières que pétrolières. Donc, c'est ça la constat.
Mais il y avait une commission,
cette opacité, faire des efforts et non pas nous contenter d'une validation des formes telle qu'elle nous a été donnée par la communauté internationale pour pouvoir, n'est-ce pas, maquiller l'opacité des entreprises multinationales qui opèrent chez nous.
Mais il était prévu, après ces deux conférences, de mettre sous pied une commission de suivi et d'évaluation qui pourrait, d'une manière ou d'une autre, disons, contrôler et vérifier, en fait, sur le terrain, l'exécution de certaines recommandations.
Oui, c'est vrai. Puis, je vous rappelle que depuis 2009 jusqu'à la dernière conférence de Goma, il a été fait dans le secteur des mines, pour ne parler que de ce secteur, plus ou moins 550 recommandations.
550 recommandations.
Oui, 550 recommandations.
Et combien
de Goma a été déjà appliquée? 89 recommandations. La conférence de Lubumbashi, on était au-delà de 100, 120, 140. Donc depuis 2009, on a fait plus de 550 recommandations. Si vous regardez bien ces recommandations, si au niveau national 10% sont plus ou moins réalisés, au niveau provincial, pour ne parler que de la province du Katanga, qui est la première province minière, je crois que c'est à peine 2-3%, parce qu'il n'y a même pas de plan de suivi ou d'élaboration ou de mise en œuvre de ces recommandations. Cela ne se fait pas, malheureusement. Et donc, après les recommandations, j'ai même suivi dernièrement le président de l'Assemblée nationale, dès qu'ils interpellent un membre du gouvernement, le membre du gouvernement se défend, il donne des éléments et l'Assemblée termine par des recommandations, lesquelles les recommandations sont directement placées dans un tiroir hermétiquement fermé. À Lubumbashi, nous parlons d'un frigo. Quand vous avez des arriérés, on met dans un frigo. Malheureusement, les recommandations, d'une manière générale, sont placées dans des congélateurs où ces recommandations sont en train d'être conservées, on ne sait pourquoi. Donc, il n'y a rien qui se fait.
malgré ces recommandations, voilà. Malgré ces différentes conférences, la conférence de Lubumbashi a coûté plus ou moins 3 millions de dollars. Pour deux jours de réunion, je vous dis que les recommandations n'ont pas été mises en œuvre, même pas à 10%. Alors donc, c'est des problèmes. Ici au Katanga, pour ne parler que de notre province, nous n'avons eu aucune réunion pour discuter de ces recommandations. Du moins dans leur application au niveau provincial. Aucune réunion. Toute l'année dernière, cette année, il y a eu la conférence de Goma. Maintenant, déjà, ça fait déjà plusieurs mois. Aucune réunion pour discuter entre acteurs du secteur comment nous allons mettre en œuvre dans la province, la première province minière, ces recommandations. Alors, je me demande où est-ce qu'on met en œuvre ces recommandations. Le comité de suivi de Kinshasa, là, qu'on met en place à Kinshasa pour se distribuer les missions, éventuellement un peu d'argent à Kinshasa, ne réalise pas du tout ce qui devait être fait.
Voilà. Et
d'ailleurs, quand vous regardez,
voilà, ça, c'est
180 000 tonnes de production de cuivre, les trois quarts sont à Kolwezi. Mais Kolwezi ne participe à rien, ni dans les discussions sur la révision du code minier, ni sur les questions des responsabilités sociales des entreprises, ni sur des questions de sous-traitance, ni sur des questions de pollution. Donc, les points où il y a énormément de ces problèmes-là ne participent pas. Donc, nous pensons qu'il y a lieu aujourd'hui de revoir même la composition du comité exécutif litigieux, qu'on puisse prendre des gens qui sont de terrain, non pas des gens qui sont en train de défendre le gouvernement sur la transparence et la gouvernance, sur... Non, c'est des questions précises et des questions qui doivent être discutées de manière responsable, en patriote, et non pas...
Oui, s'il vous plaît, Jean-Pierre, nous devons quand même être réalistes. Au moment où le comité exécutif de l'ITI est monté au créneau pour proférer des menaces de radiation du processus ITI et la RDC, tout le monde a salué, et là, on n'a pas parlé de subjectivité, on a dit que c'était objectif, mais aujourd'hui, qu'on encourage les pays, pourquoi les observateurs reviennent encore pour dire qu'il y a une complicité entre le gouvernement de la RDC et le comité exécutif de l'ITI?
Écoutez, nous, en fait, ici, vous devez comprendre que l'ITI, le gouvernement de la RDC, ça, hein, mais l'ITI, c'est une des trois parties prenantes ensemble. Donc, les trois parties prenantes, c'est notamment la société civile, ça vous le savez. Mais la société civile, c'est pas seulement celle qui est dans le comité exécutif, même celle qui est en dehors du comité exécutif. Mais d'ailleurs, vous le savez, et on l'a dit plusieurs fois, que dans, maintenant, ceux qui sont dans le comité exécutif, généralement, ils ne connaissent que les membres du gouvernement qui sont aujourd'hui leurs copains. Mais en fait, si on devait discuter des questions de fond sur les secteurs miniers, cuivre, cobalt, je ne vois pas qui pourrait en discuter de manière professionnelle dans cette société civile-là. Alors, quand vous dites la complicité entre la communauté internationale et le pays. Mais c'est vrai parce qu'il y a plusieurs rapports. Le rapport de Africa Panel a été publié par la communauté internationale. Le rapport le rapport qui est sorti de... Donc tous ces rapports-là viennent de la communauté internationale. Le dernier rapport du Sénat qui établit qu'il y a eu 50 milliards de dollars produits dans les secteurs miniers, mais qu'il n'y a eu que 2 milliards qui ont été perçus comme recettes par l'État. C'est des rapports qui existent. Mais donc si tous ces rapports sont mis à la disposition de la communauté internationale, qui malheureusement est en même temps exploitant minier chez nous avec toutes ces multinationales. Voilà la décision. C'est de valider pour la force, tout en sachant qu'il n'y a pas grand-chose qui a été fait dans le pays, aussi au pas du terrain.
Voilà, Jean-Pierre, vous allez nous permettre de prendre deux auditeurs qui nous ont rejoints. Il y a Paul qui est à Kinshasa et puis Arsène à Kikwit. Paul, bonjour. Monsieur Paul, vous êtes avec nous en ligne. Bonjour. Voilà, il est distrait, on va prendre plutôt Arsène qui est à Kikwit. Arsène, bonjour.
Bonjour, monsieur Gilles.
Vous avez la parole, Arsène.
Ok, je suis un prédécesseur. Le mot-clé que j'ai retenu, surtout pour l'invité, celui qui m'a précédé, c'est que le Congo doit cesser de devenir ou d'être un pays mafieux. Parce que quand on parle de la mafia, on a toutes les versions possibles qui peuvent faire voir à l'observateur que tout marche. Je prends un petit exemple. J'étais enfant. Quand j'avais 50% à l'école, c'était un problème à la maison avec mon père. Il disait, j'ai échoué. Quand j'avais 60%, il disait, mais ça ne te suffit pas, il faut aller à plus que ça. Et quand je faisais 70%, il disait toujours, ce n'est pas ce que j'attendais de toi. Donc, c'est une façon de dire, il faut toujours évoluer vers l'avant. On ne peut pas s'attarder à des considérations pour se dire, écoutez, ok, je suis là, je suis bien. Non, parce que le résultat est tout à fait pratique. Qu'est-ce que nous ne voyons pas? L'invité vient de nous expliquer, il est expert peut-être dans la matière. Mais nous voyons ça de toutes les couleurs dans toutes les entreprises qui doivent engager la communauté internationale. Nous ici, par exemple, au Bandoujou, nous ne sommes pas dans les mines, nous sommes dans l'agriculture. J'ai vu une fois ici, une entreprise venir chercher des terres pour le biocarburant, pour faire des plantations. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors, le conservateur a réuni plus de 16 000 hectares à cette compagnie-là. Mais, par contre, les villageois, les bénéficiaires de cette terre, ceux qui jouissent de comment on appelle ça, de jouissance, qu'est-ce qu'ils ont reçu? Quelques sacs de sel, un peu de deux ou trois cartons de savon. Et en plus, on ne les a même pas encouragés de marcher sur cette ligne-là pour que eux aussi puissent faire des grandes plantations pour que dans l'avenir, quand il y aura une industrie qui va travailler là-dessus, que eux aussi puissent avoir la matière première qu'il faut donner à cette industrie pour qu'ils puissent gagner. Aujourd'hui, nous contentons à des rapports. Oui, d'accord, les rapports peuvent venir de mauvais côté ou de bon côté, positif ou négatif, mais la réalité, c'est le patriotisme, c'est l'honnêteté. On ne peut pas définir l'honnêteté congolaise par des rapports, ou on ne peut pas définir la gestion congolaise par des rapports qui viennent de l'extérieur. Nous sommes congolais, nous vivons des réalités ici. On se les dit en face, voilà, il y a opacité dans tel ou tel domaine, et qu'on puisse améliorer. Au lieu de prier, bravo, nous avons eu un rapport international qui nous a donné des points. Non, nous sommes des Congolais, nous nous connaissons, nous voyons la réalité. Que personne ne puisse dire comme le disait Mongoliaka, nous voyons, et j'appelle à nos autorités.
Merci beaucoup, Arsène.
De prendre conscience et que vous puissiez aller vers l'avant.
Voilà, de s'engager vraiment dans cette dynamique de pouvoir opter pour la transparence, surtout dans le secteur minier qui est posé du doigt dans cette appréciation parfois faite par les litiers. Merci beaucoup, Arsène, d'avoir appelé des Kikwit. On va terminer avec vous, Maurice, qui est à Kinshasa. Maurice, vous êtes avec nous, bonjour.
Hey, bonjour, Jérôme Nguembo.
Vous avez la parole. Comment vous capitaliser?
Je salue vraiment le patriotisme et la rationalité de l'intervention de votre invité, que j'ai loué un peu. C'est vraiment son courage de dénoncer certaines choses ici aux médias. Alors, je voudrais dire ceci. Vous savez, moi j'aurais souhaité que dès le départ, au début de cette émission, vous puissiez rappeler, même informer, les causes qui ont milité à la suspension du pays à litier. Vous avez compris à son temps, vous avez même invité, je crois, quelqu'un des ERAD pour venir nous éclairer, mais il n'a pas pu. Bon, en fait, c'était quoi? Là, l'invité a parlé des mots clés que moi j'ai retenus dans son intervention. Il a parlé de l'opacité. En fait, c'est le terme même qui a été utilisé par l'OTIVITIER à l'époque lorsqu'on suspendait le pays à cette organisation. On disait qu'il y a opacité, il y a manque, absence de traçabilité. Donc, on avait fait un constat que l'argent qui est perçu par la DGRAD, par des industriels qui sont payés dûment par ces gens-là en termes de rédévance, ce ne sont pas ces fonds qui sont déclarés par la Banque centrale. Il y a même un déficit, je crois, de 220 ou 280 millions. Je cherchais rapidement le...
Oui, 280.
Je n'ai pas retrouvé. Oui. Alors, ça, en fait, c'est ce que vous devez faire d'abord de le publier. Alors, je voudrais vraiment saluer d'abord comme l'invité l'a dit, c'est vraiment une forme, c'est vraiment une reconnaissance des formes. Et dans les fonds, en fait, il n'y a absolument rien.
Et qu'est-ce qu'il faut faire dans les fonds? Qu'est-ce qu'il faut faire dans les fonds, Maurice? Gagnons du temps parce qu'il nous reste 2 minutes, le temps que l'invité aussi puisse conclure.
Non, dans les fonds, je pense que tout ce qu'on a besoin, c'est cette transparence. Mais qu'est-ce que vous constatez dans ce pays? Dans ce pays, lorsqu'il faut faire des choses mieux, il faut bien gérer, c'est quand il y a une pression extérieure. C'est quand il y a des représailles au niveau de la communauté internationale. Donc, de nous-mêmes ici, on ne perd rien. On ne paye rien. Et c'est lorsque la communauté internationale crie, et on crie ici, vous voyez souvent la réplique, c'est la souveraineté qui est devenue le leitmotiv même de ce gouvernement. Alors, mais nous louons quand même cet effort, cet apport-là de la communauté internationale, si je pense, même j'estime que s'il n'y avait pas la communauté internationale, s'il n'y avait pas des organisations internationales dans ce pays, je pense que ce pays ressemblerait à la jungle, et les Congolais pourraient ressembler même aux animaux de la forêt. à qui on pouvait gérer.
Voilà, on a fait un peu de temps, Maurice, merci. Merci beaucoup, Maurice, hein, d'avoir accepté d'intervenir dans cette émission et d'avoir participé à cet échange citoyen. Nous allons conclure avec notre invité, Jean-Pierre Mouteba. Vous êtes expert en question des gouvernances et transparence dans les secteurs miniers. Vous avez suivi les uns les autres depuis le début de cette émission. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir en une minute et demie?
Alors, ce qu'on peut retenir, c'est que notre ami du Bas-Congo a dit, c'est que Moto Akosa Moningate. Nous sommes Congolais, nous sommes patriotes, nous aimons bien notre pays. Nous savons que cette validation, c'est une validation d'efforts et que nous devons fournir encore plus d'efforts pour que nous puissions arriver à produire des recettes qui correspondent au niveau de la production des entreprises extractives. Donc nous attendons, nous, en ce qui concerne la société civile, que le gouvernement fasse le premier pas, invite la société civile qui maîtrise les questions de l'exploitation des ressources naturelles, pour que nous puissions ensemble élaborer une feuille de route précise avec des indicateurs et des échéanciers, pour qu'au niveau national et aussi au niveau provincial, parce que la province doit fournir aussi des efforts, que nous puissions mettre en œuvre ces efforts-là ensemble et que ensemble nous puissions évaluer, non pas pour la consommation de la communauté internationale, mais plutôt pour les besoins de la population, les besoins du budget de l'État qui doit être amélioré par rapport, n'est-ce pas, à l'exploitation des ressources de notre pays. Donc c'est cela. Moto Akosa Moningate, nous attendons que nous puissions discuter comme des patriotes pour que nous élaborons cette feuille de route.
Jean-Pierre Mouteba, vous êtes expert en question des gouvernances et transparence dans le secteur minier. Merci d'avoir été des nôtres et à très bientôt.
C'est moi qui vous remercie.
Allô? Allô? Il ne répond pas.
C'est par ici qu'on met un point final à cette émission produite et réalisée par Pierrot et la Mégie, assistée de Panzou Elvira. Cette émission a été, disons, la mise en onde a été assurée par Alain Goy, Jérôme Guébé à la présentation et la coordonnée sous la supervision de Nicole Gacard. On se retrouve demain dans un autre numéro, bien sûr. D'ici la portée du bien.